Passion. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Audrey Pinchot, salut!
Bon matin, Max!
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, très bien aujourd'hui.
Content? Ah oui, très bien aujourd'hui!
Oui.
T'as l'air de bonne humeur.
Oui, hier, j'ai mangé une poutine et j'en ai une autre qui m'attend pour ce midi.
Ah, c'est ça l'affaire. Il a le bonheur.
Toutefois, hier, après avoir mangé ma poutine, je suis allé courir.
T'as-tu avoir du fun?
Oui. Ben pour vrai, oui, parce que en raison d'une blessure au genou, je dois courir, puis ça m'énerve, mais regarde, faut y aller une étape à la fois. Faut que je fasse de la course en alternance. Fait que c'est une minute de course, une minute de marche, une minute... Fait que ça me permet d'aller courir même après avoir mangé une poutine, ce qui est quand même super.
Pis c'est qui t'a dit ça?
C'est-à-dire?
T'es-tu allé avoir une professionnelle pour ta blessure au genou?
Ben,
pas encore?
C'est la norme, là, que okay. Quand tu t'es blessé, tu recommences en alternance pour que ton genou s'adapte à la pression petit peu par petit peu.
On sait tous que t'es un professionnel de la course, donc toi, les normes de la course, tu les connais, Max.
Non, mais ma mère, elle m'a envoyé le programme. Je fais confiance à ma mère.
Mmh. Ah, mais ça, t'as raison. Faut toujours faire confiance à sa mère.
Toujours faire confiance à sa mère.
Mais ta mère a pas dû te conseiller de manger une poutine avant d'y aller, par contre.
Ouais, ça, non, mais ça, mon genou, ça n'a pas rapport. Là.
Si ça peut te rassurer, Max, généralement, la course en alternance, c'est super bon pour le corps
pour
et le
cœur. Pour
tout, c'est ça. Tu dégrades pas dans ta course en faisant de l'alternance. Puis Dieu sait, on sait tous, en fait, que t'es vraiment un grand coureur et un grand sportif. Donc,
attends, je me suis blessé à cause que je courais trop, par exemple. Ça, c'est vrai. Là.
Max, quand tu t'es blessé, ça faisait 2 jours que tu avais recommencé.
Au moins 2-3 semaines, je courais j'avais couru un 18 km. J'étais quasiment rendu à faire des demi-marathons.
Ah oui. Non, t'es un grand coureur.
Ah,
t'étais, fait que t'as pas pu faire le demi-marathon en fin de semaine du côté de Lévis.
Non, en raison de ma blessure au genou.
Vas-tu faire celui de Québec? Vas-tu t'inscrire à un marathon prochainement?
Ben, pour vrai, je veux faire un demi aussitôt que mon genou va me le permettre. Là.
OK.
Ouais.
Tu me tiendras au courant.
Ben oui.
Je suis vraiment contente pour toi. Hey, aujourd'hui, on tombe dans la catégorie des dossiers oubliés. Ça fait quand même plusieurs mois que ça me trotte en tête, puis on dirait que c'est pas... On aurait pu recevoir quelqu'un pour nous en parler, mais on dirait que ça prend plusieurs intervenants pour être capable de se prononcer sur ce sujet-là. Les bracelets anti-rapprochement.
Oui.
Ça fait comme des années qu'on en entend parler. Ça a donc bien l'air d'une solution miracle, mais ça marche-tu vraiment? Qui est éligible au port de ce bracelet-là? Comment ça marche? Parce qu'il y a quand même plusieurs cas qui ont fait réagir dans l'actualité dernièrement. Tu les as sûrement vus passer, Max, mais tu sais, des alertes et des alertes, puis il se passe rien, il n'y a pas d'arrestation. Il y en a un qui s'est rendu jusqu'à 93 alertes en 10 semaines. Il y en a un qui a réussi à retirer son bracelet anti-rapprochement. Il me semble dans ma tête, si t'es rendu avec un bracelet anti-rapprochement, t'es pas censé pouvoir le péter.
Puis récemment, l'histoire qui nous a toutes fait capoter, c'est les cas où... ceux qui en portent s'en servent littéralement pour harceler la victime en faisant exprès pour le...
Ça, pour c'est créer comme... peur.
Mais oui.
Non, c'est complètement débile. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir ce dossier oublié puis essayer de comprendre, on est où avec les bracelets anti-rapprochement? Et il y a une personne à qui on fait confiance quand on a des idées comme ça, c'est Mathias Turcotte qui est sur le terrain, qui est notre journaliste terrain. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, des affaires qui vous trottent en tête dans la ville, autour de chez vous, des affaires que vous voulez creuser, pour lesquelles vous voulez des questions, c'est citoyen@commercialblvd.fm tout simplement. Matt,
yes.
T'es allé creuser un peu sur tout ce qui est bracelets anti-rapprochement.
Oui, les bracelets anti-rapprochement sont mis en place au Québec depuis 2022 maintenant. Puis, on les utilise surtout pour des remises en liberté en attendant le procès. Donc, par exemple, un homme est accusé, que ce soit d'agression, de voies de fait ou autre. La norme veut qu'on le remette en liberté le plus souvent possible. Si on juge que cet homme-là représente un certain danger. Si le danger est trop grand, on va quand même le garder incarcéré. Mais si on juge qu'on peut le remettre en liberté, par moment, on va décider de mettre ces fameux bracelets anti-rapprochement-là. Il peut y avoir d'autres cas, mais dans la majorité des cas, c'est ça la situation. Donc, il est remis en liberté. Puis ces fameux bracelets anti-rapprochement-là, ça va être glissé à la cheville de l'homme en question. Puis la victime de l'homme va avoir un deuxième téléphone. Donc, on va lui fournir un deuxième téléphone qu'elle devra traîner avec elle. Puis, justement, le lien va se faire entre le bracelet et ce téléphone-là autour d'un certain rayon. Donc, dépendamment du rayon qu'on a déterminé, lorsque l'homme rentre dans ce rayon-là, une alerte est envoyée à la victime, est envoyée à l'homme également en lui disant « faut que tu t'éloignes, faut que tu partes dans l'autre direction ». Puis si jamais la personne qui a le bracelet ne répond pas à l'alerte ou continue de s'approcher de la victime, il va avoir une intervention policière à ce moment-là.
Ça se fait automatiquement, ça?
Ça se fait automatiquement. Les policiers reçoivent l'alerte. Donc, quand l'homme se rapproche, on a une alerte qui s'envoie à la centrale. À ce moment-là, les policiers rentrent en contact avec l'homme qui a le bracelet pour lui dire « Tu t'en vas vers ta victime, tu dois changer de direction. » Si c'est silence radio ou si on voit que l'homme continue à marcher vers sa victime, à se diriger vers sa victime, c'est à ce moment-là que les policiers vont automatiquement intervenir sans nécessairement avoir à avoir l'accord de la victime, parce que l'accord de la victime a déjà été donné lorsqu'on a accepté qu'il aille le bracelet anti-rapprochement. Donc, à ce moment-là, on permet aux policiers d'intervenir directement.
Mais c'est passé quoi dans un cas comme celui d'Andrew Sacrani? 93 alertes en 10 semaines. Ils ne sont pas intervenus les 93 fois, j'imagine?
C'est là que ça devient intéressant. J'ai pas d'informations sont intervenus combien de fois, mais probablement qu'ils sont intervenus plusieurs fois dans ces 93 fois-là.
Ça ne tente pas de leur rentrer en dedans,
C'est là, puis on va se plonger dans tout ça. C'est quoi des failles de ce nouvel outil? Là, parce que oui, ça a certains points positifs et tous les intervenants à qui j'ai parlé au cours de ce dossier-là ont souligné la même chose. Il y a certains points positifs, mais visiblement, il y a certaines failles parce que 93 alertes en 10 semaines, Andrew Sacrani a été remis derrière les barreaux. 44 semaines derrière les barreaux. Donc, a été remis derrière les barreaux par la suite. Mais ça a pris 93 fois en 10 semaines avant qu'on le fasse.
Ça arrive. Ça veut dire que c'est presque une fois et demie par jour, en limite.
C'est pas un hasard. Tu sais, il faudrait vraiment que tu sois malchanceux pour tomber sur la personne 93 fois.
C'est que c'est voulu, comme tu l'as dit dans l'introduction, on s'approche de la victime pour comme un peu l'intimider puis jouer dans la tête. Puis pour reprendre, j'ai dit 44 semaines, c'est 44 mois. Donc, on a quand même remis derrière les barreaux durant presque 4 ans, là, ce qui est quand même considérable. J'ai tout d'abord parlé à Louise Riando, qui est représentante pour des maisons pour femmes victimes de violences conjugales du Québec. Puis justement, elle, le questionnement que ça y amenait de voir les nombreux cas qu'on voyait dans l'actualité d'hommes qui respectaient pas les conditions, ça lui a amené le questionnement à savoir est-ce que c'est vraiment les bons hommes qui ont présentement un bracelet anti-rapprochement?
Ce que ça pose comme question, c'est que c'est pas toujours les bonnes personnes qui ont le bracelet. Quelqu'un qui ne respecte pas des ordonnances, des ordres de cour, quelqu'un qui est pas prêt à se conformer, devrait sans doute pas avoir un bracelet et devrait peut-être rester davantage incarcéré.
Quelqu'un qui suit pas les règles, qui les a jamais suivies, d'avoir un bracelet...
Pour retrouver sa liberté, ça devrait pas être une bonne affaire. Là. Ouais, ça devrait pas se faire, en fait.
Puis dans plusieurs cas, justement, ben, l'homme finit par briser les conditions. Là, on parle de 148 cas depuis 2022. Là. 148 cas sur 1762 se sont finis par un homme qui a été incarcéré à nouveau pour bris de conditions. Puis Mme Riando continue sur cette lancée-là en expliquant que pour elle, une des choses qui fait en sorte qu'on remet des hommes en liberté ou des personnes en liberté trop facilement un peu, c'est que il y a un problème au niveau de l'évaluation qu'on fait.
Et c'est là où ça manque au niveau de l'évaluation. Ce qui est fait, c'est qu'il y a une évaluation qui est faite de techniquement, est-ce que ça fonctionne? Techniquement, est-ce qu'on est dans des zones où le signal cellulaire se rend? Est-ce que monsieur, par ses trajets pour aller travailler, va être obligé de passer près de la limite qui lui serait interdite?
Fait que c'est très technique.
Oui, oui.
Alors que c'est pas supposé être ça le point principal.
Puis j'ai parlé à Audrey Bernier aussi, qui est étudiante à la maîtrise en criminologie à l'Université Laval. Puis elle fait son mémoire de maîtrise sur justement le rôle que les agents de probation ont dans le processus du bar. Puis elle, c'est ça qu'elle me disait, c'est que les agents de probation, leur rôle, c'est surtout technique. Ils vont faire des évaluations techniques sur est-ce que c'est possible de mettre ça en place. Mais il n'y a pas nécessairement tant d'évaluations cliniques. On en a un peu, mais c'est pas ça qu'on priorise. C'est surtout le côté technique. Puis là, ça fait en sorte que
le questionnement... C'est peut-être là le problème.
Ben, c'est ça, le questionnement se pose. Est-ce qu'on finit par être trop douce puis remettre en liberté des personnes qui ne devraient pas l'être? parce qu'on se concentre sur l'aspect technique au lieu peut-être un peu plus de l'aspect clinique, l'aspect psychologique. Je me suis entretenu justement avec Philippe Cloutier, qui est avocat criminaliste. Puis lui, ce qui m'a indiqué, c'est que de son côté, il ne voit pas nécessairement une plus grande flexibilité pour les remises en liberté. Mais que même si lui, il ressent pas ça, c'est sûr que ça doit jouer un rôle. Je vous laisse entendre.
J'ai pas observé une remise en liberté plus flexible ou plus facile pour des individus qui sont accusés dans des dossiers en matière de violence conjugale. Mais si, par exemple, pour un détenu, il n'existait pas de mécanisme ou de conditions qui permettaient d'assurer la protection de la plaignante, mais que le bar maintenant existe, ben on va lui permettre de retrouver sa liberté à la condition, par contre, qu'il porte le bar, parce que, je me répète, mais c'est un mécanisme qui va assurer la protection d'un ou d'une plaignante. Et, comme je l'ai dit plus tôt, ben, la règle, c'est la liberté et non pas la détention.
Le bar qui est le bracelet anti-rapprochement, si vous venez de vous joindre, assurer une sécurité, mais j'ai l'impression que justement les victimes ne se sentent pas nécessairement en sécurité avec ce mécanisme-là.
Ou du moins, dans plusieurs cas, c'est pas le cas. Là. Pour revenir au cas de Philippe Munoz, homme de 35 ans qui a retiré son bracelet, il est toujours recherché par la police. Puis un article dans le journal de Montréal, super intéressant, s'était entretenu justement avec son ex-conjointe et la fille de son ex-conjointe, qui était isolée. Il n'allait plus au travail, il n'allait plus à l'école.
T'as peur, mais oui.
Les deux se retrouvaient isolés, puis on disait dans l'article, quitte à ce que l'ex-conjointe perd son emploi, puis que sa fille rate son année scolaire, de peur, on restait isolés. Parce que cet homme-là, qu'on a remis en liberté, puis c'était pas son premier bris de condition, là, je pense qu'on était à plusieurs bris, il avait même été remis derrière les barreaux pendant 4 mois parce qu'il avait brisé ses conditions de remise en liberté. Mais là, le problème part peut-être de ça. Là, notre priorité absolue, c'est la remise en liberté.
Ça m'écœure bien raide. Là.
C'est ça.
Ça devrait pas être ça, la priorité. Là. Je veux dire, si t'es dû pour aller en dedans, on est censé avoir la place pour te mettre en dedans. Puis en manque des places en prison, là. Ça, on se l'apprend pas, mais c'est parce que ça fait des années qu'on le dit. Y a-t-il quelque chose qui va bouger un moment donné?
Ben, pour l'instant, ça semble pas, du moins. Fait que... En prenant en compte la remise en liberté, c'est la priorité. D'abord, ça devient un outil de plus qui permettrait la remise en liberté. Fait qu'on peut déduire que, d'un certain sens, ben, ça fait en sorte que tu te retrouves hors des barreaux. Puis, il y a certaines choses qui sont mises en place. Maître Cloutier, justement, rappelle que si tu ne respectes pas les conditions, tu seras arrêté, par contre.
Si, par exemple, ces gens-là sont soumis à la condition de remise en liberté, de porter le bracelet et de respecter les modalités du bracelet, et qu'ils ne respectent pas l'une ou l'autre de ces conditions-là, soit en coupant le bracelet ou en ne respectant pas le rayon prévu au bracelet, mais c'est un bris de condition. Donc, c'est un bris de condition de remise en liberté, et ça va faire en sorte que cette personne-là va être arrêtée, va être gardée détenue, et ultimement, tout dépendant de la gravité du bris, ben ça se peut que cette personne-là perde le privilège de sa liberté et reste détenue pendant le reste des procédures judiciaires.
Mais là, on vient de cibler deux problèmes tant qu'à moi. Le premier, c'est qu'on veut prioriser la remise en liberté, puis on a un outil de plus pour le faire. Fait que probablement, plus d'hommes retrouvent leur remise en liberté en attendant les procédures. Le deuxième, si tu ne respectes pas les conditions, il faut que tu sois arrêté puis remis derrière les barreaux. Visiblement, dans plusieurs cas, on n'est pas assez sévère.
93 fois.
Avant qu'on le remette derrière les barreaux, finalement, c'est 44 mois. Mais ça a pris 93 fois sur 10 semaines avant qu'on dise, ouais, on a peut-être dépassé un peu les bords.
C'est cru, là, mais 93 fois, je me dis, il y aurait le temps de la tuer si vous voulez, là.
Ben oui.
Pour vrai.
Ben, c'est pas, t'as 100% raison, là. C'est dans ces cas-là que ça devient inquiétant. On se dit, me semble qu'après 93 fois, c'est un bris de condition. T'es pas censé t'approcher, t'es censé respecter tes conditions.
T'sais, une fois, ça peut arriver. C'est fait pour ça. C'est fait
exact.
De façon théorique. C'est pas fait pour empêcher le gars d'y aller. Y a rien, c'est pas un collier électrique, là. De façon théorique, c'est juste fait pour dire, hey, tu t'approches peut-être à un risque de la croiser. Arrange-toi pour pas que ça arrive. C'est supposé être ça, là.
Parce que souvent, il y a un interdit de contact. Puis tu sais, je veux dire, ça se peut là, que tu habites Québec puis tu te ramasses dans le même rayon un moment donné parce
exact.
Que tu es à l'épicerie puis l'autre est en train de gazer à côté. Là.
C'est ça, c'est fait pour ça. C'est fait pour te dire, hey, il y a des risques en ce moment, arrange-toi pour pas que ça arrive.
Mais puis, ça devrait
c'est pas fait
être
pour
ni...
t'empêcher, c'est fait pour, hey, aie la bonne conscience de t'arranger pour respecter tes conditions.
Sauf que ça devrait être un dernier recours ou après incarcération, quand on veut remettre en liberté après que quelqu'un ait fait sa peine, ben là, en frais de réinsertion sociale, on met ce bracelet-là pour dire comme hey, regarde, t'as des conditions à respecter, puis si ça, ça fonctionne, éventuellement, tu retrouveras ta liberté complète, mais là, c'est pas de même qu'on l'utilise.
Ben dans certains cas, ça peut être utilisé comme ça. Par exemple, des cas où qu'on dit bon, où l'homme est reconnu, la personne est reconnue coupable, on l'envoie en prison durant, par exemple, 5 mois, puis par la suite, il est libéré sous condition pour 2 ans, par exemple. Mm-hmm. Ben, pendant les 24 mois, ça se peut que dans ces conditions, ce soit le bracelet anti-rapprochement qui fasse partie de ces conditions-là. Donc, dans certains cas, c'est utilisé comme ça, mais pas dans la majorité des cas.
Sais-tu, Mathias, si quand le bracelet est coupé ou on s'en débarrasse ou peu importe, les policiers sont-ils avertis?
Oui, bien, Maître Cloutier, ce qu'il m'a expliqué, c'est lorsqu'on va, par exemple, se laver. On a la possibilité de retirer le bracelet. C'est après un certain nombre de temps. Là, on n'avait pas de nombre de temps exact, mais après un certain nombre de temps, eux autres, ils ont la possibilité d'avertir, je m'en vais me doucher, je retire mon bracelet. Puis si ça prend plus que X nombre de temps sans qu'il y ait son bracelet, ben à ce moment-là, il y a une alarme qui part en disant cet homme-là n'a plus son bracelet.
Fait qu'on fait des montres intelligentes qui vont dans les piscines puis dans l'eau, mais on n'est pas capable de faire un bracelet
anti-rapprochement. De ce que Maître Cloutier m'a dit, c'est ça qui semblait être. Mais c'est ça. Donc, si la personne retire son bracelet, il y a quand même une alarme qui est envoyée au poste de police. Là, dans certains cas, c'est sûr que l'homme devient introuvable. Le cas qu'on a nommé plus tôt là, de Philippe Munoz, visiblement, l'homme, il n'a pas prévu se faire retrouver par la police puis se faire mettre en prison. Maintenant qu'on a ciblé des problèmes majeurs, OK? Maintenant qu'on a ciblé des problèmes majeurs par rapport au... on a justement que parfois on remet des personnes en liberté qu'on ne devrait pas. Par la suite, ces mêmes personnes-là qu'on remet en liberté, s'ils brisent les conditions, devraient être remis derrière les barreaux, mais visiblement, des fois... on n'est pas assez sévère avec eux autres. Est-ce qu'il y a des solutions? La semaine dernière, Catherine Genticard, députée pour le PQ dans Terrebonne et représentante du PQ en condition féminine, est en onde dans Marceau le matin. Puis elle, ce qu'elle a précisément ciblé, c'est justement qu'il fallait absolument avoir plus de précautions pour les remises en liberté.
Donc, il ne faut pas que l'instauration de cette mesure-là, des bracelets anti-rapprochement, nous dégage de nos responsabilités comme société, dégage les responsabilités du judiciaire. Parce qu'en fait... nous, ce qu'on demande, c'est d'être beaucoup plus précautionneux quand vient le moment de décider de libérer ou non un homme qui a été violent. Parce que là, le problème, on le voit, c'est que c'est souvent ces hommes-là, ce sont des multirécidivistes. Ouais. C'est souvent ce qu'on voit dans ces cas-là. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont accusés de violence conjugale sur une de leurs conjointes.
Est-ce qu'on a des peines assez sévères aussi? La question se pose. Quand ça fait 3-4 fois que tu te fais incarcérer pour les mêmes raisons... puis que c'est encore 2-3 ans que tu finis par sortir, que durant 6 mois, tu as des conditions, par exemple, de bord. Est-ce que c'est suffisant pour ces personnes-là qu'on sait que probablement ils vont recommencer? C'est une question qui se pose également de ce côté-là.
Ma réponse est non. Rendu là, je n'ai pas science infuse, mais ça me semble assez logique. À la lumière des gens avec qui tu as parlé, Mathias, est-ce que tu dirais que ça fonctionne comme processus?
Je pense pour de vrai, je pense que ça fonctionne. En général, c'est un outil qui est quand même intéressant et qui permet à beaucoup de personnes... parce qu'on parle des cas qui ont peut-être retrouvé la liberté en raison du bracelet anti-rapprochement, mais on a aussi des cas... qui auraient retrouvé la liberté de toute façon, puis quand on rajoute ce dispositif-là qui vient sécuriser les victimes.
Tu vois, moi, là, je suis à l'aise. Là où je ne suis pas à l'aise, c'est l'espèce de condition à « Ah, ben on a ça, fait qu'on va te remettre
exactement
en liberté. »
Exactement. C'est ça. Donc, peut-être l'évaluation du processus de remise en liberté qui doit être revue, mais il y a quand même des points positifs. Et toutes les personnes à qui j'ai parlé me l'ont souligné. Par contre, il y a clairement des choses à travailler.
Mathias Turcotte, un gros merci. Audrey Pinchot, merci. On t'écoute dans le retour dès 14h.
Salut!
Au retour, un petit tour de nouvelles. Et il y a du stock qui s'est ajouté depuis notre dernier tour. Notamment, le Journal de Québec nous rapporte que le directeur général des élections du Québec a donné un constat d'infraction de 1 000 $ à l'ancienne représentante officielle de Respect citoyen pour avoir tardé à transmettre le rapport financier annuel 2024 du parti municipal. On en parle dans les détails dans quelques minutes. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, 11h27.
L'Open Mic avec Audrey.